VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Monde aujourd'hui, édition de 18h30, temps universel de ce 28 août 2019. John Lyndon à la présentation, tout d'abord les titres de cette édition. Des dissensions au sein de la commission électorale en Côte d'Ivoire. Un groupe d'organisations de la société civile annonce ce mercredi qu'il ne siégera pas au sein de cette nouvelle commission. Les combats entre éleveurs et cultivateurs continuent de faire des victimes au Tchad où 11 personnes ont été tuées selon les autorités. À la demande du Premier ministre Boris Johnson, la reine vient d'approuver la suspension du Parlement en Grande-Bretagne et déjà de vives réactions. Ici aux États-Unis, les regards sont tournés vers la Maison-Blanche où la réélection de Donald Trump semble se compliquer avec l'annonce d'un challenger dans son propre camp et surtout une possible récession en 2020. Et puis, ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. En Côte d'Ivoire, un groupe d'organisations de la société civile, l'OGPAT, refuse à son tour de siéger au sein de la nouvelle commission électorale censée organiser la présidentielle de 2020. Il met en cause la crédibilité et l'indépendance de la commission. Eric Manerakiza.
L'OGPAT, groupe de plaidoyer et d'action pour une transparence électorale, regroupe plusieurs ONG. Il demande au gouvernement de rouvrir le dialogue sur deux points clés, l'indépendance institutionnelle et financière de la CEI et la composition des commissions locales. Selon l'OGPAT, la loi réformant la CEI adoptée fin juillet par le Parlement, puis promulguée par le président Alassane Ouattara, a mis fin prématurément aux discussions, malgré les réserves quasi unanimes qu'a suscité ce projet de loi, aussi bien au sein des partis politiques que de la société civile. Lundi, Pascal Afinguessan, président d'une faction du FPI, avait déclaré refuser d'envoyer un représentant à la CEI parce que la loi promulguée ne correspondait ni à l'esprit ni à la lettre de la réforme telle que sollicitée. La société civile et l'opposition militent pour une CEI équilibrée qui équivaudrait à 15 représentants équitablement répartis, 5 pour l'opposition, 5 pour la mouvance présidentielle et 5 pour la société civile. Sa crédibilité est jugée cruciale en vue de la présidentielle de 2020 qui s'annonce tendue 10 ans après la crise post-électorale ivoirienne qui s'était soldée par plus de 3000 morts.
Au Tchad, 11 personnes ont été tuées dans des combats entre éleveurs nomades et cultivateurs sédentaires dans le sud du pays. C'est ce qu'annonce le gouverneur de la région, Claire Morin-Gibourg.
Ce sont les dégâts causés par les animaux d'un éleveur qui ont déclenché les hostilités lundi. Un champ a été dévasté et les communautés de cultivateurs et d'éleveurs se sont violemment affrontées. Le président Idriss Déby Itno a déclaré l'état d'urgence le 18 août dans deux provinces de l'est du pays. 8 cultivateurs et 3 éleveurs sont morts suite à ces combats qui se sont déroulés dans le canton de Koumogo, dans la province du Moyen-Chari. Les forces de l'ordre se sont déployées pour ramener le calme. Abadi Chahir, le gouverneur de la province, a assuré avoir réglé le problème et amené les deux communautés à se parler. Dans l'est du Tchad, dans les provinces du Sila et du Ouaday, à la frontière avec le Soudan, d'autres affrontements entre cultivateurs et éleveurs ont fait des dizaines de morts depuis le 9 août. Dans cette région, les tensions s'expliquent aussi par la sécheresse et la pression démographique.
Tout à côté, au Cameroun, au moins 17 personnes ont péri dans le naufrage du bateau de passagers qui s'est renversé sur un banc de sable dimanche au large du Cameroun, donc, selon un nouveau bilan de la radio d'État. Et l'incertitude persiste sur le nombre des disparus. 14 corps ont été repêchés hier après près de la péninsule de Bakassi, dans le sud-ouest du Cameroun. 2 jours après, ces 3 premières victimes, a détaillé la Cameroun Radio Television. Ce bilan a été confirmé à l'AFP par un responsable des autorités locales sous couvert de l'anonymat. À ce jour, 111 survivants ont été secourus selon la CRTV. Au Soudan, on attend la composition du nouveau gouvernement appelé à redresser une économie exsangue et à mettre fin au conflit interne après des mois d'une contestation inédite qui a fait tomber le président Omar El-Béchir. Investi le 21 août, le premier ministre Abdallah Hamdok doit nommer les membres de son cabinet. Le gouvernement devrait être composé au maximum de 20 membres choisis par Hamdok, à l'exception des ministres de l'Intérieur et de la Défense, qui seront nommés par les militaires siégeant au Conseil souverain. La première réunion gouvernement-conseil est prévue le 1er septembre. Et puis, en République démocratique du Congo, l'ex-ministre de la Santé, Oli Ilunga, a été entendu mardi par la justice dans une enquête sur l'utilisation de fonds publics dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola, qui a tué près de 2000 personnes en un an dans le pays. Nommé en décembre 2016, Oli Ilunga a démissionné le 22 juillet. Il s'estimait désavoué par le président de la République, Félix Tshisekedi, qui lui avait retiré la conduite de la riposte contre Ebola. Et puis la Gambie est en deuil. Le premier président après l'indépendance du pays, Sir Daouda Jawara, renversé en 1994 lors du putsch mené par Yahya Jammeh, est décédé mardi à l'âge de 95 ans. Adama Barrow, l'actuel chef de l'État gambien, a déploré une grande perte pour le pays, en particulier et pour l'humanité en général. Les drapeaux seront mis en berne, c'est du moins ce qu'indique le ministre de la Pêche, James Gomez.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Parlement britannique sera suspendu la deuxième semaine de septembre et ce jusqu'au 14 octobre, soit deux semaines seulement avant la date prévue du Brexit. La demande du Premier ministre Boris Johnson, approuvée par la reine, suscite déjà de vives réactions. Abdourahmane Dia.
Selon le président de la Chambre des communes, cette manœuvre du Premier ministre est un scandale constitutionnel. C'est un scandale et une menace à notre démocratie, a pour sa part réagi Jeremy Corbyn, le chef de l'opposition travailliste. La première ministre écossaise et chef des indépendantistes écossais, Nicola Sturgeon, a indiqué que si les députés ne s'unissent pas pour empêcher la suspension du Parlement, ce sera une sombre journée pour la démocratie britannique. Cette annonce a été critiquée jusque dans les rangs conservateurs. L'ancien ministre des Finances, Philip Hammond, opposé au scénario d'une sortie sans accord de l'Union européenne, dénonce un scandale constitutionnel. Boris Johnson a défendu sa décision, affirmant sur la chaîne de télévision Sky News que le calendrier fixé laissera amplement le temps aux députés de débattre de l'Union européenne et du Brexit. Ses critiques l'accusent de chercher à empêcher le Parlement de bloquer un éventuel scénario de sortie de l'Union européenne sans accord. La livre sterling a chuté de 0,6% face à l'euro et au dollar à la suite de cette nouvelle. La rentrée parlementaire qui s'annonce houleuse est prévue mardi.
Un règlement de compte dans un bar de striptease de l'État mexicain de Veracruz a fait au moins 26 morts et 11 blessés selon les autorités. 8 hommes ont fait irruption dans la nuit de mardi à mercredi au Caballo Blanco, Cheval Blanc, établissement nocturne de Coatzacoalcos, cité portuaire mexicaine, connue pour son injustice pétrolière selon des témoins. Certains d'entre eux ont tiré sur les clients et mis le feu à l'établissement à l'aide de cocktails Molotov. D'autres affirment que les agresseurs ont versé de l'essence avant d'incendier le bar. Au Yémen, les forces gouvernementales ont repris la ville d'Aden dans le sud, infligeant un coup aux séparatistes qui cherchaient ces dernières semaines à s'emparer de plusieurs régions du sud du pays. Yacouba Ouédraogo.
Chassé il y a 18 jours d'Aden après la perte du Sanaa, les forces loyalistes ont pris le dessus sur les troupes séparatistes sudistes du Conseil de transition du Sud. Les officiers et les soldats de la garde présidentielle ont réussi à sécuriser de manière complète le palais présidentiel et ses environs, a écrit sur Twitter le ministre de l'Information Muammar al-Iryani, ajoutant que l'armée et les forces de sécurité exercent un contrôle total sur cette ville portuaire. Ces combats entre pouvoirs et séparatistes à Aden ont éclaté le 7 août avant de se déplacer dans la province voisine d'Abyan, puis dans celle de Chabwa. Depuis 2014, le pouvoir du président Abd Rabo Mansour Hadi est en guerre contre les rebelles Houthis qui se sont emparés de vastes régions du nord, dont la capitale Sanaa. Mais depuis début août, un nouveau front s'est ouvert avec les combats contre les séparatistes qui réclament l'indépendance du sud du pays. Les deux camps avaient pourtant combattu auparavant ensemble les rebelles Houthis. D'après des ONG, ce conflit a fait des dizaines de milliers de morts et plongé le pays dans la pire crise humanitaire au monde, selon l'ONU.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOAfrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et dans le monde, c'est dans la Minute Éco avec Nani Talani.
L'Ouganda renonce à un projet de barrage hydroélectrique à proximité des chutes Murchison au parc national. Le gouvernement estime que ce projet hydroélectrique sur le Nil Victoria affecterait le paysage, l'écosystème et en conséquence le tourisme qui attire plus de 100 000 touristes chaque année. Le projet pourra être réalisé ailleurs en dehors du parc. Des défenseurs de l'environnement et de nombreux acteurs du secteur du tourisme s'étaient d'ailleurs déjà opposés à ce projet. Le groupe italien Eni annonce la découverte d'un important gisement pétrolier et gazier dans le delta du Niger au sud du Nigeria. Selon les premières estimations, ce nouveau gisement renferme 1 000 milliards de pieds cubes de gaz et 60 millions de barils de pétrole et peut être opérationnel immédiatement. Il a une capacité de production quotidienne de 100 millions de pieds cubes de gaz et 3 000 barils de pétrole. Le Nigeria, le plus grand producteur de pétrole d'Afrique, voudrait porter sa production à 4 millions de barils par jour au lieu des 2 millions actuels. Pour finir, des experts de l'ONU sont arrivés à Djibouti pour enfin mener bientôt une mission d'inspection du navire pétrolier Safer, resté sans maintenance près du Yémen pendant 4 ans.
Et retrouvons tout de suite Yacouba Ouidraogo pour parler de sport. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
Soirée de médailles pour le Burkina hier aux 12e Jeux africains.
Oui, le Burkina Faso a remporté 2 médailles d'or. Fabrice Zango en triple saut et Laetitia Bambara au lancer de marteau. Depuis Rabat au Maroc, Kader Traoré a suivi les épreuves dans ces deux disciplines. Voici son compte-rendu.
Par 2 fois, l'hymne national du Burkina a retenti hier mardi en fin de soirée au complexe sportif Moulay Abdallah de Rabat. En triple saut, Fabrice Zango a assuré dès son 2e essai sa médaille d'or. Il a réalisé un bond de 16,88 m. Une victoire importante pour le natif de Ouagadougou.
Cette victoire, elle est très très importante en fait pour moi et pour le Burkina Faso qui n'avait pas encore justement une médaille ce soir. 16,88 m, on va dire que c'est une performance moyenne. De toute façon, à partir du moment où ça m'apporte la victoire, le reste sera à travailler pendant les entraînements et puis pour pouvoir justement élever le niveau pour les championnats du monde qui arrivent très bientôt.
Après le triple saut, la 2e médaille burkinabé a été glanée par Laetitia Bambara au lancer de marteau. L'étalon a propulsé son engin à 65,28 m lors de sa 6e tentative, suffisant pour aller chercher l'or.
Ça n'a pas été facile, mais voilà, je suis contente d'avoir remporté cette médaille pour le Burkina. Cette médaille est le fruit de mon travail que j'ai réalisé depuis ces années.
Au tableau des médailles, l'Égypte creuse chaque jour son écart. Elle vient en tête avec 147 médailles, dont 44 en or. L'Afrique du Sud arrive en 2e position avec 57 médailles, dont 26 en or. Kader Traoré à Rabat pour VOA Afrique.
Merci à Kader Traoré. Et puis Yacouba, 3 candidats pour le fauteuil de président de la Fédération malienne de football.
C'est demain qu'a lieu l'élection à la FEMAFOOT, le scrutin attendu depuis près de 5 ans. Devrait permettre au football malien de tourner une page douloureuse de son histoire. L'expression clé de cette campagne est la réconciliation de la famille du football qui traverse une crise depuis des années. Notre correspondant à Bamako, Siaka Traoré, nous présente les 3 candidats et les enjeux de cette élection.
Les 3 candidats sont Alassane Souleymane, Mamadou Touré, Diba Vieux et Salaha Babi. Et en tout, ils seront 62 votants pour départager les 3 prétendants pour le fauteuil. Les messages de campagne sont presque les mêmes. Et le point commun chez tous les candidats, c'est bien sûr celui de la réconciliation des acteurs du football malien. L'harmonisation des textes qui régissent la Fédération malienne de football, la redynamisation de la direction technique, la mise en place d'une ligue professionnelle, la recherche des sponsors, le développement du football féminin, la multiplication des infrastructures sont également entre autres points évoqués par les candidats au cours de cette campagne. Si le nouveau comité exécutif tant attendu est élu ce jeudi 29 août 2019, ce sera d'une part la fin du mandat du comité de normalisation installé le 10 janvier 2018 par la FIFA et d'autre part la fin annoncée d'une crise dont le football malien a souffert pendant presque 5 ans. Une crise qui a eu pour conséquence la suspension du championnat malien pendant presque 2 ans. Siaka Traoré Bamako pour VOA Afrique.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et nous retrouvons Bagassi Koura pour la partie magazine de ce journal.
Oui, merci John. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Bagassi donc en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Et on commence par le Mali, fin de la grève des camionneurs dans ce pays, où hier, plus de 1000 camions chargés de marchandises étaient bloqués à l'entrée de la capitale Bamako. Cela faisait 5 jours que les chauffeurs protestaient contre le mauvais état des routes dans le pays. Et Kiabadou a joint à Kaï Ibrahim Sori Diabakite. Il est analyste sociopolitique.
Comme l'état de la route là s'est considérablement dégradé, il y a toujours des accidents sur cette route. Donc les jeunes de Kati ont mis un mouvement en place dénommé mouvement Sirako. Ils avaient fait déjà une première opération de escargot. Le gouvernement avait pris des engagements pour dire qu'ils allaient réparer cette route et que le financement était déjà acquis. Bon, le fait d'annonce a emporté l'essentiel. Les travaux ont commencé et quelques mois seulement après les travaux se sont arrêtés. Brusquement, donc, le ministre du département concerné a été interpellé et à l'Assemblée, elle a affirmé très clairement que le financement est bouclé et que le blocage expliqué par juste un petit problème de décaissement.
Ce problème de décaissement a duré combien de temps?
On est en train d'aller vers le 8e ou le 9e mois, pour être précis. C'est ce qui a exaspéré la population, pas seulement à Kati, mais la population de Kati, la population de Digeni, Kolokani, jusqu'à Kai. Parce que Kai, on a bloqué le pont là-bas, et à Kati, c'est l'entrée de la ville de Kati qui a été bloquée. Donc aucun véhicule de transport ne pouvait passer, et même les véhicules personnels. Mais après, il y a eu un allègement de la mesure où on laissait passer les motocyclistes et les véhicules personnels. C'est l'exaspération qui a poussé les jeunes à se radicaliser et à mettre les barricades.
Quels sont les risques avec les barricades pour les personnes qui sont en train de se mobiliser? Qu'est-ce qu'elles encourent?
Alors pour moi, ils ne risquent rien. À part les pressions qu'on essaie de les faire ça et là, c'est une mobilisation populaire qui concerne l'ensemble du pays. Cette route est l'une des pistes de ravitaillement du pays et que pratiquement les recettes générées par cette route sont supérieures à toutes les autres routes nationales au Mali. C'est l'une des pistes de ravitaillement, en tout cas, qui contribue beaucoup à la caisse même de l'État. C'est le directeur de la SE, la sécurité d'État, qui est rentré dans la danse. Suite, ils se sont impliqués dans la chose parce qu'ils ont senti que la sécurité de l'État était en cause. Il y a un camp militaire là-bas. Pratiquement dans toutes les familles de Kati, il y a au moins un militaire ou un porteur d'uniforme. Donc, c'est très dangereux. Naturellement, il n'est pas compétent pour agir ici. Le compromis qui a été trouvé, c'est que les jeunes avaient demandé que le Premier ministre leur donne une date qui peut leur assurer que les travaux vont redémarrer pour qu'ils puissent lever les barrières. Cela n'a pas été, mais avec le directeur de la SE, dit que les travaux vont redémarrer dans 3 semaines. Il a donné sa parole, il s'est engagé. Si les jeunes ne sont pas satisfaits dans 3 semaines, alors lui ne pourra pas les empêcher de faire ce qu'ils entendent faire.
Rendez-vous donc dans 3 semaines. C'était Ibrahim Sori Diabakite. Il est analyste sociopolitique au Mali.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24 heures sur 24.
Direction la République centrafricaine pour faire la connaissance de Stéphane. C'est un centrafricain de 53 ans. Sa particularité, la collection de documents d'archives qu'il revend à la Sauvette dans les rues de la capitale Bangui. Pascal Serra nous amène à sa rencontre.
Des journaux qui datent des années 1970, des portraits d'hommes qui ont marqué l'histoire de la République centrafricaine, sont entre autres quelques pépites historiques que collectionne Stéphane, artiste centrafricain et gérant d'un magasin de souvenirs. La plupart de ces journaux d'antan représentent aujourd'hui ce qu'il reste de cette époque prospère qu'a connue le pays.
Vous savez, on dit toujours « le monde est dans les livres ». C'est pour cela que j'aime trop lire, j'aime les livres, j'aime collectionner des livres. Avant, j'avais des collègues, on était ensemble à l'université. Il y en a d'autres, parce que moi j'ai laissé. Il y en a d'autres qui continuent encore jusqu'à aujourd'hui. Et parfois, c'est auprès d'eux que je reçois parfois des livres. Il y a des enseignants retraités, il y a des fonctionnaires retraités. Et parfois, à chaque moment, chaque jour, je cours chez eux, chercher des histoires, chercher des livres. Il y a des journaux datés de 1960-62 de notre pays, la République centrafricaine. Vous savez là où j'ai trouvé? Là où on vend les méchouis. Donc, ces gens-là, ils utilisent pour faire l'emballage des méchouis aux gens. Et quand j'ai vu, ça m'a touché, ça m'a pris au cœur. Je suis obligé, il y en avait une dizaine, je suis obligé d'acheter tout ça. Ça m'a pris au cœur. Pourquoi? Parce que ça, c'était une histoire de la République centrafricaine, mais les gens ne connaissent pas cette histoire, sont obligés de prendre ça pour faire l'emballage avec les méchouis qu'ils vendent. Donc à chaque moment, chaque jour, je fais mes recherches. C'est pour cela que j'ai toujours beaucoup de documents sur moi.
Passionné par la lecture, Stéphane souhaite transmettre sa passion à la jeunesse centrafricaine qui malheureusement, selon lui, ne connaît pas son histoire et surtout s'intéresse très peu à la lecture.
La plupart de mes clients... Ça me fait mal au cœur parce que la plupart de mes clients, ce sont des expatriés. Alors que la plupart de mes clients devraient être les nationaux. Mais vraiment, ça me fait mal au cœur. Je leur conseille à tout prix de chercher à lire, de chercher à connaître, à acheter des livres, des bouquets, des documents pour connaître l'histoire. Le monde est dans le livre.
En République centrafricaine, les nombreuses crises qui se sont succédées ont entraîné la fermeture de l'unique musée de la capitale et il n'existe aucune structure de conservation d'archives nationales. À défaut d'avoir les moyens de présenter dans un centre agréé les ouvrages qu'il collecte, Stéphane continue de sillonner les rues de Bangui en espérant réaliser un jour son rêve, acquérir un atelier pour contribuer davantage à la restauration de l'histoire de son pays.
Reportage de Pascal Serra à Bangui.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, 7 mois après son investiture, le président Félix Tshisekedi a finalement son premier gouvernement. L'équipe est composée de 66 membres, dont 5 vice-premiers ministres et 10 ministres d'État. Dans ce gouvernement de coalition, le FCC de l'ex-président Joseph Kabila détient 2/3 des portefeuilles grâce à sa majorité écrasante au Parlement. La composition du gouvernement, la taille de l'équipe, les chances de réussite de la coalition FCC Cash et ses priorités. Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Les leaders du G7 vont apporter 251 millions de dollars pour l'entrepreneuriat féminin à travers la Banque africaine de développement grâce à l'initiative d'AFAWA, Action positive pour le financement en faveur des femmes en Afrique. Et sur le terrain, de nombreuses organisations se démènent pour promouvoir l'autonomisation des femmes. C'est le cas, par exemple, de LEAD africaine, fondée par 10 femmes de Toastmasters International. Aminata Keita en est la vice-présidente et lors d'un entretien avec Nathalie Barge, elle a abordé diverses questions liées au leadership féminin.
L'objectif est que le petit nombre se mette au service du grand nombre, comme même dit la présidente de LEAD africaine. Simplement, nous faisons des projets, nous aidons les femmes à se développer, à s'alphabétiser et à mettre en place de petits projets d'autonomisation financière, afin qu'elles soient indépendantes. Des organisations comme LEAD africaine, justement, aident les femmes à développer leur estime de soi-même, leur confiance en soi, parce que la confiance en soi est à la base de tout. Dans ce que nous faisons, nous les accompagnons. Même les femmes candidates en politique.
Les candidatures féminines, alors qu'est-ce que vous faites pour les accompagner? Les femmes qui sont du reste très rares à être présidentes de partis politiques.
C'est vrai. Et c'est vrai que c'est une question de plus en plus abordée, cette question de participation des femmes en politique. Ce que nous avons constaté, c'est qu'en général, les femmes sont toujours au bas des listes électorales. Avant les élections, elles sont volontaires, on les positionne. Mais dès que les élections approchent, vous voyez que les femmes sont au bas et c'est les hommes qui sont en avant. Donc, ce que nous avons fait un projet une fois d'interpellation, c'est-à-dire interpeller la société en général sur la participation des femmes en politique. Et nous avons fait des pétitions, informer la population sur la nécessité d'accompagner soutenait les candidatures féminines. Mais à côté, ce que nous faisions, c'est que nous formions les femmes, nous accompagnions. Nous avons fait des cours de coaching, des cours de prise de parole en public pour les aider à présenter leur vision. Cela a fait effet, on peut dire. Et ça a encouragé plus de femmes à se présenter.
Sur la question de la prévention des conflits, d'une certaine manière, parce que plus de femmes dans les forces de l'ONU, dans les forces de police, dans l'armée, etc., c'est quelque chose qui fonctionne bien et qu'on ne fait peut-être pas assez, non?
C'est vrai, et je crois qu'il faut de plus en plus compter avec les femmes dans le cadre de la prévention des conflits et même de la résolution des conflits, parce que les femmes, justement, ont ce leadership qui est recherché aujourd'hui, même par les hommes. On parle de féminisation du leadership, le côté humain et maternel de la femme est mis en avant. Les gens font confiance aux femmes. L'IDE africaine, dans ses projets, justement, d'aide aux femmes, a mis en œuvre un grand projet de choix de femmes et de jeunes filles dans certains quartiers. Le projet a été réalisé en Côte d'Ivoire, dans les communes d'Abobo et de Yopougon, où les femmes sont impliquées maintenant dans la prévention des conflits. Et ça marche très bien. Les institutions locales et puis les responsables communautaires ont été impliqués dans le projet et ils sont entièrement d'accord, y compris les maires, hein, que les femmes fassent partie prenante des projets. Donc quelques femmes, seulement des femmes et des jeunes filles ont été ciblées pour repérer des foyers de conflit, de les reporter afin qu'il puisse y avoir des actions qui soient prises à temps pour éviter les crises qu'il y a eu précédemment.
Voilà, c'était donc Madame Aminata Keita, elle est vice-présidente de l'IDE africaine. Elle était interrogée par Nathalie Barge.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Voilà, intéressons-nous maintenant à la politique américaine et aux chances donc de réélection du président Donald Trump. L'économie tend vers une récession, disent certains économistes. Et le président américain devrait aussi faire face à un challenger.
Lors du sommet du G7 en France, le président Donald Trump a évoqué une vision solitaire sur le commerce, la Russie et la lutte contre le changement climatique. Trump a également défendu ce que certains considèrent comme son approche chaotique du dossier du commerce avec la Chine.
C'est la façon dont je négocie. Cela a très bien fonctionné pour moi au fil des ans et cela fonctionne encore mieux pour le pays. Cela aurait dû être fait par d'autres, Bush, Clinton, cela aurait dû être fait et je le fais à présent.
Trump vante souvent la vigueur de l'économie américaine comme ici dans le New Hampshire.
Bien que nous avons été victimes de chasse aux sorcières et toutes les autres choses que nous avons dû traverser, nous avons pris les commandes du grand et beau navire et il est en train de changer de cap très rapidement.
Mais la guerre commerciale avec la Chine a fait des ravages et certains économistes mettent en garde contre une récession qui pourrait peut-être paralyser les chances de la réélection de M. Trump l'année prochaine. Une opportunité pour ses adversaires démocrates de s'attaquer à sa gestion de l'économie.
Cela touche moins le fondement de l'économie que la politique commerciale, la politique étrangère et la politique intérieure. Ce qui amène les gens à s'interroger sur la stabilité de cette administration.
Trump a également un adversaire issu de son propre parti, l'animateur radio et ancien représentant de l'Illinois au Congrès, Joe Walsh.
Je me présente parce qu'il est inapte. Quelqu'un doit intervenir et il doit y avoir une alternative. Le pays en a marre des crises de colère de ce type. C'est un enfant.
Walsh peut se révéler n'être rien de plus qu'une gêne mineure pour Trump, étant donné le soutien écrasant dont bénéficie le président chez les Républicains. Toutefois, un ralentissement économique l'année prochaine pourrait lui causer des problèmes politiques. Susan Page.
Nous n'avons jamais destitué un président, encore moins eu des doutes quant à sa réélection, surtout lors d'une reprise de l'économie, comme c'en est le cas. Nous n'avons jamais non plus réélu un président qui se présente en période de récession. C'est donc une réalité que la Maison-Blanche ne perd pas de vue.
Trump obtient généralement des électeurs des notes élevées sur l'économie. Mais un récent sondage d'Associated Press a révélé une inquiétude croissante quant au caractère du président.
Il y avait quelques points positifs sur l'économie et certaines politiques, mais les préoccupations générales concernant le caractère de ce président, sa façon de communiquer, sa tendance à diviser sur certaines questions pèsent, plus que les avantages qu'il tire de l'économie.
Are making America great again. Thank you, New Hampshire. Thank you.
Voilà, c'était un papier de Irénée Angbo. C'est la fin de cette édition présentée pour la première partie par John Lindon et moi-même pour la deuxième partie, Bagassi Koura. Lionel Gaïma était à la production. Merci de nous avoir suivis.